aujourd'hui le 4 octobre et c'est la fête. Comme la plupart d'entre vous le savez, je suis sûr, c'est la fête de Saint François d'Assise, le saint le plus connu, le plus aimé, le plus apprécié partout, même par les protestants, les orthodoxes peut-être. Il est connu même chez les juifs et chez les musulmans. Car d'abord, quand on visite l'Italie, on aime beaucoup aller voir Assise, qui est un des endroits les plus beaux du monde. Assise, un des lieux les plus superbes, les plus extraordinaires. On dirait que tout était fait pour y faire naître Saint François d'Assise, lui qui a tant aimé et Dieu, et Jésus, et la nature, et la simplicité. Il disait, considérons tous, mes frères, le bon pasteur, parce qu'il y avait des moutons, évidemment, dans cette région, des troupeaux, hein, et ça lui plaisait d'appeler le Christ le bon pasteur, comme il est dit d'ailleurs dans les évangiles. Considérons tous, mes frères, le bon pasteur qui a enduré la souffrance de la croix pour sauver ses brebis, hein. Il avait cette perspective de la souffrance qui sauve. C'était l'époque, et c'est toujours aujourd'hui pour bien des gens, la souffrance qui sauve. Elle est nécessaire, la souffrance, mais je ne suis pas si sûr que ce soit la souffrance qui sauve. Et Saint François d'Assise le trouvera d'ailleurs, c'est l'amour. Il dit d'ailleurs, les brebis du Seigneur l'ont suivi dans la tribulation et la persécution et la honte, la faim et la soif, dans l'infirmité, et la tentation et les autres épreuves, hein, il parle des apôtres, et pour ces peines, elles ont reçu du Seigneur la vie éternelle. Et c'est vrai que tout autour du Christ, à travers les siècles, les saints sont souvent devenus des martyrs. Les saints ont souvent beaucoup souffert pour suivre le Christ. Et c'est leur amour pour le Christ qui les portait à ainsi souffrir, hein. Saint François ajoutait aussi, c'est une grande honte pour nous, serviteurs de Dieu. Les saints ont fait ces œuvres et nous, en les récitant et en les prêchant seulement, nous voulons en recevoir honneur et gloire. Nous qui prenons la parole comme ça, en parlant des saints, moi en particulier, on ne fait que réciter, prêcher seulement, hein, comme il dit. Les saints ont fait ces œuvres et nous, en les récitant et en les prêchant seulement, nous voulons en recevoir honneur et gloire. Que Dieu me préserve de croire qu'il y a la moindre gloire à faire ce que l'on fait quand on parle des saints. Saint François ajoute qu'il aurait répondu, on ajoute qu'il aurait répondu à un novice qui lui demandait la permission d'avoir un psautier, ou si vous préférez un bréviaire ou un livre des heures, pour prier les psaumes comme font les prêtres, les moines et les moniales, et de plus en plus de laïcs et de religieuses et de frères, etc., dans le monde entier. C'est devenu extrêmement populaire, hein? C'est surprenant, beaucoup plus qu'avant le concile. Donc un novice lui demandait la permission d'avoir un psautier à son usage, et il lui a répondu, ce que je n'aime pas du tout, moi, pour ma part. Je ne vous parlerai pas de Saint François d'Assise en approuvant tout ce qu'il dit. Soyez sans crainte. Les temps ont changé et on doit être capable de comprendre. Je ne désapprouve pas François d'avoir dit ce qu'il a dit à ce novice, mais je ne l'accepte pas pour aujourd'hui. Il lui dit, regarde l'empereur Charles, Roland et Olivier, et les valeureux héros et les preux chevaliers, c'est en combattant les infidèles, c'est-à-dire les musulmans, en peinant et en travaillant jusqu'à la mort, qu'ils ont remporté leur fameuse victoire. Vous savez, ces guerres saintes, je n'aime pas ça, moi, personnellement, je n'aime pas ça du tout. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, ces catholiques voulaient défendre les lieux saints qui avaient été envahis par les musulmans, en particulier le tombeau du Christ, Bethléem et Nazareth, les lieux où il est né, où il a grandi, et d'autres lieux où il avait vécu. Les musulmans avaient envahi ça, et les chrétiens ne pouvaient guère y aller avec grande difficulté. Et saint François ajoute, et c'est très intéressant, les saints martyrs, eux aussi, ont voulu mourir pour la foi du Christ en plein combat. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui prétendent, en racontant seulement leurs prouesses, comme je fais moi, mériter la gloire et les honneurs. Oui, parmi nous aussi, il y en a beaucoup qui ont la prétention, en récitant ou prêchant les œuvres des saints, de recevoir gloire et honneur, comme s'ils les avaient fait eux-mêmes. Que Dieu me garde de ça, et soyons bien prudents, c'est pas parce qu'on connaît la vie des saints que ça ajoute quoi que ce soit à ce que nous sommes. Seul notre amour qui s'identifie à celui que les saints avaient pour Dieu, pour Jésus, peut transformer notre cœur. Et cet amour, c'est quelqu'un, c'est l'Esprit Saint lui-même. Et pour qu'il soit en nous, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité, ce qui est bien, bien difficile, et pourtant bien facile aussi, reconnaître que nous ne sommes que des instruments dans la main de Dieu, que nous sommes l'objet de son amour, et que si nous laissons pénétrer cet amour en nous, eh bien nous devenons petit à petit des âmes de feu et de lumière comme les saints. Et notre tiédeur, presque froide, devant ces saints, se transforme petit à petit. Mais ça se transforme aussi d'une façon très sérieuse par l'Eucharistie, par la pratique sainte et croyante de l'Eucharistie. On ne peut pas arriver à quoi que ce soit si on n'arrive pas à croire vraiment et à pratiquer vraiment ce que Jésus nous enseigne. Celui, donc, François d'Assise, que Dante appelait un soleil dans le paradis. Vous savez qu'il a écrit, je vous en ai déjà parlé, de Dante, ce grand poète italien qui a écrit une œuvre magistrale et très sacrée. Le paradis, chapitre 9, au verset 50, il appelle saint François un soleil. Je crois que ça lui convient très bien. Cet homme si humble qui est un soleil. Il est né en 1182 et il mourra très jeune en 1226. C'est très jeune. Il est né à Assise, donc, dans ce décor magnifique de l'Ombrie, une région d'Italie qu'on appelle l'Ombrie, Ombrie, comme de l'ombre. Son père s'appelait Pierre ou Pietro Bernardone. Il était riche. C'était un de ces capitalistes de son temps, quoi. Il devait son argent au trafic de honnête, de la laine et du drap. J'espère qu'il était honnête, en tout cas. Il a baptisé son fils Jean, puis finalement Francesco, ce qui veut dire français, parce que son père voyageait en France pour ses affaires. Il tenait à voir dans son bureau un interprète qui parlait le français, qui était alors la langue internationale, un peu comme aujourd'hui. De riches marchands de la Beauce rêvent d'avoir un fils qui parle l'anglais pour pouvoir faire du commerce avec le Canada anglais, le Canada et puis les États-Unis. Et alors, François a aimé notre langue. Il trouvait cette langue délicate et forte. Et puis, plus tard, il s'est adressé d'ailleurs à Dieu dans notre langue. Il a écrit des poèmes dans notre langue, en fait dans la langue d'oc. C'était un honneur pour notre langue, finalement, que de penser que le François l'a parlé, qu'elle a modelé sa bouche. Et ça me rappelle cette chanson qu'on entend souvent, hein, sur les ondes à la gloire de la langue française. Soyons donc fiers de la bien parler. Elle est si belle, cette langue. François d'Assise la parlait, tel qu'on la parlait, vers l'an 1200, quoi. Alors, Pierre Bernardone, le papa, voulait initier puis associer son fils aux affaires. Oh, il n'était pas inapte, François d'Assise. Il était fantaisiste, c'était un farceur. Puis mais comme on en voit des jeunes gens qui sont pas malhonnêtes, mais un peu légers. Et je pense à mon petit-fils qui a parfois de mauvaises notes en classe, bien qu'il ait de grands succès dans les matières. Il est souvent puni parce que c'est un farceur, mon petit-fils. Et je reconnais peut-être un peu François d'Assise là-dedans. Des enfants de 10 ans ou de 15 ans qui aiment bien rire et trop peut-être rire. Et François d'Assise se montrait mille fois plus habile à dépenser l'argent de son père qu'à le gagner selon les règles d'un bon marchand. Il était âpre au gain. Il excellait à mener avec ses compagnons de folie, de toutes sortes de farandoles folles, comme on disait à l'époque. Il faisait même des frasques. Mais rien de grave, hein. C'était pas un délinquant. Il était prodigue, mais il aimait bien faire l'aumône. Exactement comme des jeunes gens aujourd'hui. Mon fils était comme ça, je regrette de signaler des détails comme ça, mais c'est parce que vous aussi, vous avez sans doute des fils comme ça. Tu sais, on se promène avec son fils dans la rue. Moi, mon fils avait été itinérant quand je l'ai adopté. Alors, quand il voyait des itinérants dans la rue, bien, il fallait toujours que je donne 25 sous ou un dollar. Ça pouvait coûter cher une promenade avec mon fils, parce qu'il était très mal à l'aise de passer devant ces gens sans donner. Il était prodigue, mon fils. D'ailleurs, quand il avait un peu trop d'argent, il invitait tout le monde au restaurant et il m'arrivait chez moi, les 100 dollars étaient disparus. C'était comme ça. Alors, c'était une espèce de prince charmant que François d'Assise. Une santé peut-être un peu faible, mais ses parents étaient bons à son égard et lui pardonnaient un peu ses fredaines. De toute façon, ils étaient assez riches. Et les hasards de la guerre, de la maladie, ont retenu François, heureusement, sur cette pente qui glisse facilement vers la débauche. Il n'est absolument pas tombé là-dedans. Il y a des gens qui prétendent qu'il est tombé là-dedans. C'est absolument faux, d'après tous les documents. Et quand on lit la vie de Saint-François de Thomas de Celano, qui a été traduite, je l'ai chez moi, traduite avec une introduction, des notes, du père Damien Voreux, je vous la recommande, aux éditions franciscaines. Le père Voreux a fait un travail magnifique sur les œuvres de Saint-François. Et alors donc, il est prodigue, mais les hasards de la guerre l'empêchent de devenir un mécréant. L'Italie, à cette époque-là, était en proie à des luttes politiques, des luttes sociales, des luttes économiques, et François a été fait prisonnier à Pérouse, un peu dans le nord de l'Italie, un petit peu au nord de l'Ombrie. Donc, il était prisonnier des Pérugins, comme on appelle les habitants de Pérouse. Il a été libéré finalement au bout d'un an. Il est tombé malade. Et là, il a pu réfléchir. Ça ressemble un peu à Ignace de Loyola, dont je vous ai déjà parlé. Vous savez qu'il avait été à la guerre, il a eu une jambe blessée, puis il a lu des Vicins, puis s'est converti, puis il est devenu le grand Ignace de Loyola, qui nous a donné ces jésuites qui ont fait tellement pour l'Église et la civilisation au cours des 4 derniers siècles. Et alors donc, il va en expédition vers les Pouilles. Les Pouilles, c'est justement la région où était Padre Pio, dont je vous ai parlé aussi. C'est un beau chevalier, hein, flambant neuf, de jeune. Puis à Spolète, un songe l'arrête et le renvoie au pays natal, à Assise. Et ses amis lui font fête, évidemment. Ils sont contents de le retrouver. Il est très populaire. Et il lui donne un sceptre, c'est-à-dire le sceptre de ce qu'on appelle les folles, pas les folles, F-O-2-L-E-S, là. Ne vous méprenez pas, c'est les folles, F-O-L-S, en d'autres termes, le sceptre des fous. Car c'était très la mode dans ce temps-là, hein, les folles de Dieu, les folles du Christ. Et saint François d'Assise, c'est ce qu'il est devenu un peu comme ceux qu'on appelle les folles de Dieu, F-O-L-S, je le répète. Dans l'Église orthodoxe, il y a beaucoup, beaucoup de livres qui paraissent depuis une trentaine d'années sur ces innombrables Russes orthodoxes qui ont parcouru, on les appelle souvent les pèlerins, qui ont parcouru les steppes de Russie en mendiant, en chantant et en évangélisant finalement les foules, eux qui avaient l'air un peu de fous. Alors, quand ses amis lui ont fait la fête, il est resté un petit peu en arrière, un peu figé, puis on lui a dit, mais qu'est-ce que tu as? Alors, quelqu'un a dit, vous voyez bien qu'il a changé, il songe à se marier. Et François répondit, oui, je songe à prendre femme, il est si belle, si riche, si pure, que vous n'en avez jamais vu de semblable. Et qui était cette femme? C'était Dame Pauvreté. Il avait saisi que la pauvreté lui permettrait de rencontrer le cœur tout dépouillé de Jésus. Et sa vie a changé, elle est devenue sérieuse, il s'est retiré, il était habile à aider les pauvres. Et voilà que cette victoire, on peut dire, l'a transformé. De chevalier pour la guerre, il est devenu chevalier du Christ. Il chevauchait, puis brusquement, au détour du chemin, il s'est trouvé face à un lépreux à un moment donné. Et d'instinct, il a tourné sa bride pour changer de route. Mais ce recul lui a fait honte. Il est revenu vers ce pauvre lépreux. Et François d'Assise a sauté de cheval. Il lui a donné tout l'argent qu'il avait sur lui. Il lui a baisé la main. Cette main qui était, en somme, stigmatisée, c'est-à-dire blessée par la pourriture. C'est un instinct, quand on est chrétien, qui vient presque naturellement, je vous assure. Je l'ai expérimenté à Yaoundé, je ne suis pas un saint loin de là. J'étais assis à une terrasse. Je prenais quelque chose, un jus de fruits. Il faisait très chaud, j'attendais mon équipe de tournage pour aller filmer dans la jungle. Et un jeune homme qui paraissait bien est venu vers moi, les mains derrière le dos, me demandant un peu d'argent. Alors je souris, je lui dis, mais tu ne travailles pas? Il me dit, non monsieur, je ne travaille pas. Mais j'ai dit, tu es jeune, tu es fort, tu pourrais travailler. Puis il a tendu ses deux mains et il n'y en avait plus de mains. Elles étaient presque toutes disparues sous la lèpre, et instinctivement, je les ai prises et je les ai embrassées. C'était instinctif. On est tellement bouleversé quand on voit ça, c'est tragique. Un jeune homme de 22, 23 ans sans main, c'est abominable. Un jour de 1206, où il y avait 24, 25 ans, il priait dans la chapelle délabrée de Saint-Damien, près d'Assise, et on connaît l'histoire, hein, il a entendu l'icône byzantine, une icône, comme on les aime bien, là, les icônes orientales, qui lui dit, « Va, répare mon église en ruine, et vite, François a vendu son cheval et quelques ballots d'étoffe, des ballots d'étoffe de son père, pour commencer les restaurations de cette chapelle, et le vieux prêtre qui desservait la chapelle a craint des histoires, il a refusé ce secours dangereux, lui, ça lui semblait invraisemblable, et François, qui prévoyait évidemment que son père ne se fâche contre lui, s'est caché plusieurs jours, il avait pris des ballots de tissu. Enfin, il est revenu à Assise, mais ce départ, où il s'était devenu comme un reclus, mais ça l'avait mis dans un état lamentable. Alors, il est assailli, dit-on, par des gamins qui crient « Pazzo », ça veut dire « fou ». Il passe pour un fou, hein. Il est devenu un pauvre, quoi. Et son père, Bernardone, Pietro Bernardone, vient voir qui est cette espèce de fou, ce folle, comme je disais tout à l'heure, dont on se moque si fort, et horreur, c'est son fils, c'est son François. Alors il l'empoigne parmi cette marmaille de gamins hurlantes, il le traîne chez lui, il le jette pantelant dans un recoin. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire avec son fils? Est-ce que François va céder? Et alors Pierre s'adresse au consul de la cité pour qu'il l'expulse, mais François répond qu'il est d'église. Eh bien alors là, en présence de l'évêque, mais que l'insensé, cette espèce de fou de François, se prononce une bonne fois. Alors, séance spectaculaire, toute la ville vient à court et l'évêque invite François à rendre à son père ce qu'il lui a emprunté sans permission. Alors le jeune homme ne répond point. François sort un instant, puis rentre nu, tenant ses vêtements avec l'argent et les pièces de tissu. « Écoutez tous, dit-il, jusqu'ici, j'ai appelé Pietro Bernardone mon père. Mais maintenant, je veux servir Dieu. Aussi, je lui rends son argent, ses habits, je lui rends tout. Et de la sorte, je pourrais dire en toute vérité non plus, mon père Pierre Bernardone, mais notre père qui êtes aux cieux. » Évidemment que son père n'était pas très content, il a raflé les vêtements et l'argent et s'est retiré, très humilié par cette déclaration de son fils. Et je le comprends. Mais cependant, l'évêque, qui avait le sens évangélique très profond, a pris François sous son manteau. Et François a restauré Saint-Damien, l'église, de ses propres mains. Ça peut être facile pour un père d'avoir un fils comme ça, mais je pense aussi, moi je suis parti de chez moi comme ça pour toujours, en prenant un bateau à Montréal pour me rendre en Europe, pour entrer dans un monastère, et je me souviens que mon père et ma mère pleuraient au port de Montréal et que mes frères étaient étonnés de me voir partir. Et quand on veut partir, qu'on veut se donner à Dieu, hein, il faut marcher sur l'amour que nos parents nous portent, et c'est très dur. Ça fait mal. Je me rappelle, c'était il y a très longtemps, et ça me fait mal encore d'avoir fait tant de peine à mes parents. Mais c'était comme s'il le fallait. Alors notre jeune François d'Assise, qui a 25 ans, était un enthousiaste, un poète. Il avait une sensibilité extrême, une délicatesse merveilleuse. Il avait faim de Dieu, il avait faim d'absolu. Il la trouverait dans l'application de l'Évangile pris à la lettre, ce qui est très dangereux. Et ce littéralisme, qui pour le monde est une folie, mais le Christ ne le demande pas à tous, heureusement. Dieu respecte nos oreilles plus ou moins lâches. Hein? Les saints, eux, perçoivent des sons. Que c'est un peu comme les chiens. Vous savez, quand on a un chien, on veut l'appeler, puis on prend un sifflet. Personne n'entend le sifflet, mais le chien l'entend. C'est des notes très, très élevées. Les cris de Dieu, ils sont peut-être des cris si élevés que seuls les saints les entendent. En somme, il faut avoir une âme ouverte, des oreilles qui perçoivent les sons les plus élevés, un peu comme ces chiens. Et alors, ces saints peuvent accorder leur vie aux appels très élevés que Dieu leur lance. Et François a vu l'essence de l'Évangile, lui, dans l'humilité, la pauvreté aimante, aimante, hein, qui fait les apôtres, des apôtres qui gagnent les hommes et les femmes à Dieu. Nul ne fut plus que lui, on peut dire, dédaigneux des institutions, des organisations, de toutes les affaires, des administrations prévoyantes. Pour lui, c'était des précautions qui étaient déconseillées par Jésus lui-même. On croit que, quand on est dans la perspective de ce François d'Assise, il y a une espèce de quelque chose comme du Judas dans la gérance des sommes d'argent et des constructions. Mais il faut quand même avoir un peu de sens commun, moi. Je suis craintif devant les excès. Vous avez reçu, c'est Jésus qui dit, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Tout proche, c'est-à-dire que le royaume des cieux, c'est pas que ça veut dire la fin du monde. Proclamer que le royaume des cieux est tout proche, c'est-à-dire que la vie spirituelle profonde, elle est tout proche si vous voulez entrer dans cette perspective qui est celle que l'Esprit Saint peut vous donner si vous ouvrez vos oreilles, vos yeux, votre cœur. Et Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous préoccupez. Ne vous procurez ni or ni argent, ni besace pour la route, ni deux tuniques, ni chaussures, ni bâtons. Et François était, lui, la séduction même dans tout ça. Il a charmé jusqu'aux oiseaux et aux poissons, hein. Et encore aujourd'hui, il y a des colombes qui vont dans le cloître depuis presque 1000 ans, enfin depuis 800 ans. Toujours les colombes qui se font leur nid et qui s'engendrent les unes des autres, elles sont toujours là. On dit qu'il a même charmé le loup farouche de Gobiot et des disciples. Ils sont venus de bonnes familles. Il y avait Bernard de Quintaval, Pierre de Catane, qui était chanoine, le frère Gilles ou frère Égide et d'autres encore. Ils ont pris l'habit des paysans de la région. Ils vivaient les premiers temps près d'Assise dans des campements forts sommaires, des huttes improvisées, des grottes, à différents endroits jusqu'à la portion Cul dont je vous parlerai tout à l'heure. Puis ils s'appelèrent alors les pénitents d'Assise. Ils ont pris le nom de frères mineurs, c'est-à-dire de petits frères. Et François d'Assise, on l'a vu, les jeunes gens commencent à l'entourer et puis prennent le nom de frères mineurs, c'est-à-dire de petits frères. Mineurs, c'est ce que ça veut dire. Notre droit qui est majeur, c'est évidemment le plus grand. Mineur, c'est petit, ça n'a rien à voir avec les mines, n'est-ce pas? Alors, c'était pas une question de politique, c'était une question de vouloir se rapprocher des gens ordinaires. Et ça montrait leur idéal évangélique et très humble. Dans le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure de Thomas de Celano, c'est-à-dire, c'est un contemporain, ça, de François d'Assise. Il a bien connu François d'Assise. Il a écrit une immense vie de lui. Alors, je vous disais qu'il y a aux éditions franciscaines, on le publie toujours. Moi, j'ai l'édition de 1957, qui est très intéressante. C'est des explications de Damien Voreux, franciscain. Voici ce qu'on lit sur la description physique de François d'Assise. Ça pourrait vous intéresser au milieu de cette émission. Voici ce que Thomas de Celano écrit. Il était de taille moyenne, plutôt petit que grand. Il avait le crâne rond et de dimension moyenne. Le visage un peu allongé. Le front petit et droit. Les yeux moyens de couleur noire et limpide, les cheveux foncés, les sourcils droits, le nez régulier, mince et droit, les oreilles petites et comme toujours à l'écoute, les lèvres fines et minces, la barbe noire et clairsemée, le cou grêle, les épaules droites, les bras courts, terminé par de petites mains aux doigts effilés avec des ongles saillants, les jambes maigres et de petits pieds, la peau douce, le minimum de chair. Il était grossièrement vêtu, dormait peu, donnait tout. Comme il était très humble, il n'était que douceur. Et savait s'accommoder utilement aux caractères les plus divers. Lui qui était le plus saint parmi les saints, semblait parmi les pécheurs être devenu comme l'un d'eux. Thomas de Celano. Donc François se trouve à fonder le grand ordre de Saint François, qui comprend, comme vous savez, les frères mineurs, c'est-à-dire les franciscains bruns, les franciscains noirs ou conventuels, qui sont moins nombreux. On en a à Montréal, et puis il y en a même au Grand Séminaire, ce sont des Polonais qui étudient au Grand Séminaire, ils portent même leurs costumes. Et puis il y a les Capucins, on les retrouve en particulier à la chapelle de la Réparation, hein, dans l'est de Montréal. Et aussi, ils ont un centre dédié à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, tout près de l'avenue du Mont-Royal, tout près du parc, là. Mais François, donc, avait un souverain respect pour les prêtres. Il savait les juger sévèrement, mais la sévérité qu'il ressentait ne l'empêchait pas d'avoir un souverain respect pour ce qu'ils sont, et même pour la hiérarchie ecclésiastique, malgré leur indignité, qui était très souvent évidente, hein, à l'époque de Saint François. D'ailleurs, il avait un tel respect pour la hiérarchie que même pour le pape, Il a tenu à se présenter au pape avec ses compagnons. On l'a vu dans des films, ça nous est raconté de façon un peu romantique, mais enfin. La formule des franciscains différait évidemment beaucoup du système des anciens moines, c'est-à-dire les bénédictins. Et de même, ça différait de la coutume ou des façons de vivre des chanoines réguliers qui sont attachés à une église. Ce genre de vie de Saint François pouvait paraître évidemment extrêmement suspect. Hein? On pouvait se demander si ça avait des rapports avec les théories des cathares qui entraînaient des catholiques en dehors de l'église dans le sud de la France. Ou bien les thèses des Vaudois qui sont les précurseurs du protestantisme qui étaient dans le nord de l'Italie. J'en ai rencontré des Vaudois, ce sont des chrétiens fort sympathiques, hein, mais qui sont séparés de l'Église depuis avant le 15e siècle. Il en existait des Vaudois au temps de Saint-François. C'est un tout petit, c'était quelques villages à l'époque. C'était pas très important, mais ça créait un schisme dans l'Église. On pouvait se demander aussi s'il ne rêvait pas un peu comme Joachim de Flore. Vous connaissez ses théories au sujet de l'ère, la période du Père, la période du Fils, qui se serait terminée à ce moment-là, et puis ça serait été la période de l'Esprit-Saint, et donc de l'exaltation sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, un peu comme les excès que l'on trouve parfois dans certains groupements charismatiques. Je n'ai rien contre les charismatiques, au contraire, je leur dois beaucoup. Je ne suis pas personnellement charismatique, mais j'ai beaucoup d'admiration pour des éléments du renouveau charismatique. Je tiens à le dire, je l'ai expérimenté, j'y suis allé des centaines de fois, je sais ce dont je parle, on ne peut pas juger sans connaître. Or, le pape Innocent III a donné son approbation orale aux franciscains en 1209 ou 1210, et ils étaient autorisés à prêcher à l'église. Les paroles de François ont touché profondément. Un jour, une jeune fille fort jolie qui s'appelait Claire d'Assise. C'était la fille de Favarone di Offreduccio. Elle admirait François depuis sa conversion. Elle a décidé de servir Dieu sous ses ordres. Et en 1212, secrètement, dans la petite église de la Portioncule, qui était devenu le lieu de culte des frères, eh bien, François lui a coupé les cheveux, lui a donné une robe de bure grossière. Il y a eu une contre-attaque de la famille qui a dû finalement accepter les faits. Et Claire a incarné l'idéal de François dans toute sa pureté et avec une grande rigueur. Et celle qu'on a appelée à partir de là, parce qu'elle a été entourée très vite, eh bien, on les appelait les dames de Saint-Damien, du nom de leur monastère, Saint-Damien. Elles sont devenues les Clarisses du nom de Claire. Les Clarisses, hein? J'ai déjà fait un film que j'ai beaucoup aimé sur les moniales, Clarisses de Valleyfield. Un film que j'ai fait en 1970 qui avait eu beaucoup de succès parce que ça nous révélait la vie des Clarisses. Alors donc, elles étaient la réalisation parfaite du rêve d'ermite, car elles vivaient cloîtrées, hein, et contemplatives. C'était le rêve de Saint François, mais ce rêve héroïque avait une autre tendance dans le cœur de François. C'était un rêve à l'apostolat, au missionnariat, il voulait devenir missionnaire, et personnellement, François était hanté par le désir du martyr, il a voulu partir pour une croisade purement spirituelle, pas d'armes à la main, vers la fin de 1212. Il voulait partir pour l'Orient, mais son navire a été entraîné hors de sa course, vers la côte de la Croatie. Vous voyez, dans le nord de la mer Adriatique, là, à droite de l'Italie, dans le haut, il y a la Croatie. Puis c'est là qu'il a accosté. C'était avant Medjugorje, évidemment, hein. Il a dû revenir vers Ancône. Ancône, c'est un port de mer de l'Italie qui est à la hauteur, disons, de Florence. Et vers 1214, deux ans plus tard, il a essayé de s'attaquer au Maroc. Une maladie l'a arrêté en Espagne, il a dû rebrousser chemin, mais finalement, en 1219, là, ça c'est seulement 7 ans avant sa mort, il est venu en Égypte, puis remonté jusqu'en Palestine. Or, cet homme ascétique, ce pauvre, a plu aux musulmans, qui l'ont écouté avec respect, mais au même temps, 5 frères franciscains exaltés ont forcé par leurs insultes à Mohammed les musulmans du Maroc à les martyriser. Triste histoire. Alors François était fier pourtant de ses martyrs. Étrange conception. Comment peut-on être fier de gens qui insultent les autres et qui se font martyriser? C'est des choses, je vous ai dit, que je n'aime pas chez François d'Assise, mais ce sont des excès que je comprends, c'est l'époque. Et je ne le blâme pas, il ne diminue pas dans mon cœur. J'aime François d'Assise, mais si je juge à partir de 1995, ben, j'ai des réserves. Alors vous me pardonnerez, hein? Pendant donc que Saint François d'Assise était en Orient, son ordre est passé par une crise très grave. Un chapitre, c'est-à-dire une réunion de l'administration, disons un conseil d'administration, s'est réuni pour promulguer des constitutions nouvelles, des nouveaux règlements. On encourageait les études, on renforçait les jeunes, on rendait la discipline plus stricte. Alors François a été alerté, il est revenu. Mais François n'avait rien d'un autocrate, il ne savait pas comment arrêter ça. Il souffrait intensément de voir son idéal de simplicité, qui était un idéal insoucieux des études. Il n'avait guère lu que la Bible, lui. Il n'était même pas prêtre, il n'a pas voulu devenir autre chose que diacre, je crois. Il a voulu que les franciscains soient méconnus par tout le monde, mais ça marchait pas, il y en avait trop. Il répugnait à imposer la douceur, dirait-on, par la force, il pouvait pas. Tout ce qu'il a pu faire, ce fut, disons, de maudire Giovanni de Staccia, qui était l'organisateur d'un couvent d'études, un couvent où il y avait une bibliothèque, etc., etc. Or, Saint François d'Assise, bien se sentant débordé, est allé voir le pape Honorius III, puis il a obtenu de lui un protecteur pour sa fraternité, les franciscains. C'était le cardinal Ugolin qui est devenu un grand ami, c'est le futur pape Grégoire IX, le cardinal Ugolin. Pierre de Catane est devenu vicaire général de l'ordre, puis en 1221, 5 ans avant la mort de François, c'était frère Élie, le fameux frère Élie. Alors, il y a toutes sortes de détails sur la première règle et de la deuxième règle. Mais la sainte pauvreté suppose l'aumône. Cette aumône, on pouvait l'attendre en prière ou aller l'acquérir en quêtant. Comme notre bon frère Frédéric ici, qui a beaucoup quêté, hein, qui est devenu le bienheureux frère Frédéric à Trois-Rivières. Je vous en ai déjà parlé de Frédéric. Eh bien, Saint François a imaginé une religion mobile, avec des mendiants qui quittent à domicile. Et la conception de Saint François d'Assise, que l'on a surnommé petit à petit le Poverello, ou le petit pauvre, a séduit Saint Dominique. Et au cours d'une entrevue, en présence de ce cardinal Ugolin dont je vous ai parlé, Saint Dominique a proposé à Saint François d'Assise d'unir son ordre au sien. Nous sommes loin de la vieille règle bénédictine dans tout ça. Une troupe d'hommes, les bénédictins, immobiles dans un monastère. Ça doit en principe se suffire, mais c'était pas comme ça pour les franciscains. Et pour Noël 1223, 3 ans avant sa mort, François célèbre la fête de Noël à Greccio, dans une grotte au flanc d'une montagne où on avait aménagé une crèche avec un bœuf et un âne. Et un autel était placé dans une excavation au-dessus, et François assistait le célébrant comme diacre. Il avait refusé, je vous l'ai dit, le sacerdoce, hein, par humilité. Hein. Il a chanté l'évangile, il a prêché, comme font les diacres, et Thomas de Celano, là, l'auteur de sa vie, rapporte qu'un témoin a vu Saint François s'approcher de la crèche et y réveiller l'enfant Jésus. Bon, on n'est pas obligé de le croire, hein, mais c'est sympathique comme histoire. Et en 1224, pour le carême de Saint-Michel, qui commençait après l'Assomption, c'était une espèce de carême spécial, parce que la fête de Saint-Michel était très, très importante. Je vous ai parlé de Saint-Michel vendredi dernier. C'était très, très, très important à cause des lieux de pèlerinage. Et alors donc, on faisait une espèce de carême, donc du 15 août au 29 septembre, un mois et demi. Et François, donc, pour cette période-là, s'est retiré dans la haute solitude du mont de l'Alverne, Alverne, au nord d'Assise, à 15 lieues environ, là. Ce serait le 14 septembre, en la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, comme on disait autrefois. Aujourd'hui, on dit la fête de la Croix glorieuse. Eh bien, François en extase, a vu dans le ciel quelque chose qui ressemblait à un séraphin, c'est-à-dire un ange, là, qui a plusieurs ailes et qui serait brillant. Puis il a vu un crucifix. Et lorsqu'il est revenu à lui, bien, ses mains, ses pieds, son côté étaient blessés des blessures de Jésus crucifié. C'est ça un stigmatisé. Vous qui m'écoutez, qui ne comprenez pas le mot stigmatisé, ce sont les saints qui reçoivent les plaies que le Christ a eues en étant crucifié. En ses mains, ses pieds, son côté. Le côté, c'est la lance dont le centurion l'a transpercé après sa mort. Et frère Élie écrivait aux frères dans la circulaire où il annonçait la mort de François, « Je vous annonce une grande joie et la nouveauté de miracle. On n'a jamais connu un pareil signe, sauf dans le Fils de Dieu. Peu avant sa mort, notre frère et père apparut crucifié, portant dans son corps cinq plaies, qui vraiment sont les stigmates du Christ. En effet, ses mains et ses pieds eurent comme des trous, des clous visibles des deux côtés, conservant les cicatrices et montrant le noir des clous. Son côté apparut percé d'une lance et souvent versa du sang. » Alors, blessé d'amour, François d'Assise a chanté son Créateur. Ici, le cantique des créatures, qu'on appelle aussi le cantique du soleil. Très haut, tout puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire et l'honneur et toute bénédiction. À toi seul, très haut, elles sont dues, et nul homme n'est digne de te nommer. Noué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire le Frère Soleil, qui fait le jour. Et tu nous illumines par lui, et il est beau et radieux avec grande splendeur. De toi, très haut, il porte témoignage. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires et précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère le vent, et pour l'air, et toutes sortes de temps, par lequel tu donnes à tes créatures de quoi te soutenir. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est bien utile et humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux et robuste et fort. Ô loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur mère terre, qui nous soutient et nourrit, et produit divers fruits, avec des fleurs colorées et de l'herbe. Et comme l'officier de police d'Assise était en conflit avec l'évêque, François ajoute cette strophe dans son cantique. Et c'est très beau. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par ton amour et soutiennent infirmité et tribulation. Heureux ceux qui persévéreront dans la paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés. Or, le prestige de notre petit pauvre était tel que cette poésie inspirée, chantée devant les antagonistes, a amené à une réconciliation générale. Et enfin, lorsque la mort se fit proche, eh bien, François a composé cette suprême strophe. Loué sois-tu, mon Seigneur. Écoutez bien, ça c'est très très beau. Moi, j'en ai fait ma prière depuis ma jeunesse. Quand j'avais 13 ans quand ça m'a frappé, et ça ne m'a jamais quitté. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur mort corporelle, à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent dans les péchés mortels. Bienheureux ceux qui se trouveront dans des très saintes volontés, car la seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle, ne leur fera point mal. Louez, bénissez mon Seigneur, remerciez-le et suivez-le avec grande humilité. Moi, j'aime bien quelqu'un qui appelle la mort sa sœur, car la mort n'existe pas, à mon avis, c'est une naissance, avec un N majuscule, et c'est ce que nous célébrons à cette émission tous les jours, la grande naissance des saints, et des gens qui ont su donner à leur vie un sens profond et qui ont su se diriger vers Dieu. Mais leur mort n'a pas existé. Ils sont passés dans les bras de Dieu. Quelques mois peut-être avant son dernier jour, Saint François a rédigé un testament, fait de quelques souvenirs des premiers temps de l'ordre, les dernières prescriptions, il commande le travail. Il aimait les initiatives, il disait, ce qui n'est pas contradictoire, « Je veux fermement obéir au ministre général et aux gardiens », disait-il. Le gardien, c'est les prieurs, les supérieurs de couvent. Et François dit, « Je veux être tellement lié en ses mains que je ne puisse aller ou agir contre ses ordres parce qu'il est mon maître. » Quel sens de l'obéissance il avait, hein? Ça semble complètement dépassé aujourd'hui. Il avait d'ailleurs déclaré que le religieux doit se laisser faire par son supérieur comme un cadavre. Oh, ça se dit plus aujourd'hui. Son testament est émouvant. On y sent l'inquiétude d'un homme qui est profondément sincère et qui voit son œuvre qui risque de sombrer. Il est mort dans une cabane auprès de Sainte-Marie-des-Anges en vue d'Assise. Il s'est fait étendre nu par terre. Son gardien, ou comme je disais, son supérieur, lui a prêté des chaussures, une tunique, un capuce pour le temps qui lui restait à vivre. Et François d'Assise, devenu aveugle, presque un cadavre, blessé et pantelant. François était heureux de sa dépendance. Il a béni ses frères. Il a envoyé un billet à Dame Claire, Sainte-Claire, et à une amie romaine qui était très bonne pour lui, Dame Jacqueline. Il demandait, il l'appelait toujours Frère Jacqueline, je trouve ça sympathique. Il demandait à Frère Jacqueline d'apporter le nécessaire pour l'ensevelir et imaginez, il a demandé une friandise, oui, une friandise. Elle est arrivée en hâte avec l'attirail funèbre, évidemment, puis un gâteau aux amandes. Que c'est bon, hein, un gâteau aux amandes. Et François l'a goûté et l'a apprécié juste avant de mourir. C'est sympathique. Un grand saint pauvre qui sait apprécier un bon gâteau aux amandes. Moi, j'aime ça. Le vendredi 2 octobre 1226, François bénit du pain, il l'a distribué. Il avait 45 ans. Le lendemain, on lui a lu la passion selon saint Jean, cette belle passion qui est si belle. Et la mort étant proche, on l'a couché par terre. Il s'est fait saupoudrer de cendres. Il a entonné le psaume 141, « Voce mea ad dominum clamavi ». Je crie de ma bouche vers le Seigneur. Et il est mort dans ce chant du départ, plaintif et plein confiance. Saint François d'Assise pourrait avoir été parmi les saints quelque chose d'unique. Il semble que ce n'est pas toutefois à cause de ses stigmates. C'est plutôt que nul n'a été plus semblable à Jésus-Christ, au moins par ce désir de lui conformer même extérieurement sa vie. 2 ans plus tard, dès 1228, Saint François le Poverello était canonisé par le pape Grégoire IX. Et 2 ans plus tard encore, en 1230, on a transféré son corps de l'église Saint-Georges à la nouvelle basilique Saint-François. Quand il avait du chagrin, Saint-François, et qu'il était triste, ça arrive au saint, il prenait son violon, il l'appelait comme ça son violon, fabriqué avec 2 bâtons et un fil tendu. Il en jouait avec tous les mouvements ordinaires des musiciens, puis il dansait, il chantait des cantiques en français. En français, dans notre langue. Essayez ce remède, peut-être, vous qui êtes triste. Chantez. On chantait tellement dans nos foyers autrefois. C'était tellement merveilleux. Merveilleux. Il y a un très beau texte sur Déloy Leclerc dans Sagesse d'un pauvre. Très beau livre sur Saint-François. On dit que François cheminait derrière Léon à travers le bois et ils avaient l'habitude tous deux de ces marches silencieuses dans la grande nature. Ils dévalèrent bientôt les pentes d'un ravin au fond duquel grondait un torrent. François déclare « Notre sœur, l'eau, ta pureté chante l'innocence de Dieu. » Alors, sautant d'un rocher à l'autre, Léon eut tôt fait de traverser le torrent et François le suivit. Il y mit plus de temps, était un peu malade. « Tu as l'air songeur, » lui dit simplement François. « Ah, si nous pouvions avoir un peu de cette pureté, » répondit Léon, « nous connaîtrions, nous aussi, la joie folle et débordante de notre sœur l'eau et son élan irrésistible. » Il passait dans ses paroles une profonde nostalgie. Alors le regard de Léon fixait mélancoliquement le torrent, qui ne cessait de fuir dans sa pureté insaisissable. « Viens, » lui dit François en le tirant par le bras, et ils reprirent tous deux leur marche. Après un moment de silence, François d'Assise demanda à Léon, « Sais-tu, frère, ce qu'est la pureté du cœur ?» Léon lui dit sans hésiter, « C'est de ne pas avoir de faute à se reprocher. » Alors François lui dit, « Alors, je comprends ta tristesse, car on a toujours quelque chose à se reprocher. » « Oui, » dit Léon, « et cela précisément me fait désespérer d'arriver un jour à la pureté du cœur. » « Ah ?»« Ah, frère Léon, crois-moi, » répartit François. « Ne te préoccupe pas tant de la pureté de ton âme. Tourne ton regard vers Dieu. Admire-le. Réjouis-toi de ce qu'il est, lui, toute sainteté. Rends-lui grâce à cause de lui-même. C'est cela même, petit frère, avoir le cœur pur. Et quand tu es ainsi tourné vers Dieu, ne fais surtout aucun retour sur toi-même. Ne te demande pas où tu en es avec Dieu. » La tristesse de ne pas être parfait et de se découvrir pécheur est encore un sentiment humain, trop humain. Il faut élever ton regard plus haut, beaucoup plus haut. Il y a Dieu, l'immensité de Dieu et son inaltérable splendeur. Un tel cœur est à la fois dépouillé et comblé. Il lui suffit que Dieu soit Dieu. En cela même, il trouve toute sa paix, tout son plaisir, et Dieu lui-même est alors toute sa sainteté. Que c'est beau! Je vous recommande donc de ne pas craindre de vous approcher des sacrements, d'aller vous confesser, recevoir le sacrement du pardon, recevoir l'Eucharistie, cette Eucharistie que François aimait. Considérons tous, dit François, le grand péché et la grande ignorance de certains clercs touchant le corps et le sang très saint de notre Seigneur Jésus-Christ, et ses noms très sacrés et ses paroles écrites par lesquelles on consacre son corps. Nous savons que son corps ne peut être présent s'il n'a d'abord été consacré par ses paroles. Et nous ne possédons rien, et par les yeux du corps nous ne voyons rien du Très-Haut en ce monde, si ce n'est son corps et son sang, les noms et les paroles qui nous ont créés et rachetés de la mort à la vie. Il parle de l'Eucharistie dans des termes tellement beaux, tellement grands, qu'on ne saurait recevoir l'Eucharistie sans être dans la joie. Et aujourd'hui, si vous allez à la messe, vous entendrez ce beau début de la messe. Saint François d'Assise fut un homme de Dieu. Il a quitté sa maison, abandonné son héritage pour épouser dame pauvreté, et le Seigneur l'a pris à son service. Et la prière, la première est très belle. Que les prières de l'Église sont belles. Dieu Père, qui a donné à Saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, plein de joie et de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint pour les siècles des siècles. Amen.